voix nue. Toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Luc Choplin. Ce soir, l'ami de Mickey.
Jean-Luc Choplin, pour ce nouveau volet de vos à voix nue, va revenir sur une période qui vous voit passer donc de l'Opéra de Paris, du ballet de l'Opéra de Paris, à Disneyland Paris, ce qui n'a rien d'évident. C'est pourtant ce que vous avez fait, donc j'aimerais qu'on parle de cette décennie au royaume de Mickey pour vous, Jean-Luc Choplin, en commençant bien sûr par expliquer quand même la connexion entre vous et Robert Fitzpatrick, qui va présider à l'ouverture de ce nouveau parc. Vous l'aviez rencontré comment ?
Robert Fitzpatrick est la personne qui m'avait envoyé Stelex pour me dire que le projet des Civil Wars était annulé. Donc,
c'est Bob Wilson, encore une fois le lien.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il avait un gros remords parce que de m'avoir fait ce mauvais coup. Donc Robert Fitzpatrick était en même temps le directeur de CalArts, qui est le California Institute for the Arts. Donc c'est un peu les beaux-arts de Californie, financé à 99% par la Walt Disney Company, permet à des tas d'étudiants des beaux-arts de devenir animateurs, au fond, dans les studios d'animation. Et donc, il avait été choisi par le président de la société, par Michael Eisner, pour venir, puisqu'il est... Robert Fitzpatrick avait épousé une Française, Sylvie Fitzpatrick, et donc, parle couramment français, de culture, donc il avait apparu à Michael Eisner comme étant l'homme privilégié pour venir, dans ce contexte politique parisien, ouvrir le royaume de Mickey près de Paris. Donc, quand il est arrivé, Robert Fitzpatrick m'a demandé si je voulais travailler avec lui en m'expliquant que voilà, il avait réussi à pouvoir se regarder dans la glace sans aucun problème et que peut-être que si je réfléchissais, j'arriverais à faire la même chose. Donc,
vous avez beaucoup réfléchi ?
Pas vraiment. D'abord, il y a eu une phrase qui m'a traversé l'esprit très vite, en me disant, bon, au fond, ce serait très drôle de passer des petits rats à la souris. Donc, je veux dire, pourquoi pas. Deuxièmement, j'ai eu ce voyage que m'a offert Robert Fitzpatrick. Il m'a dit, écoute, va découvrir la compagnie, je t'organise tout. Parce qu'après tout, à Paris, on ne sait pas ce que c'est que la Walt Disney, qui était quand même un des plus grands studios de cinéma, qui n'avait pas encore intégré la télévision et ABC, mais qui était quand même très présent dans beaucoup de choses, l'animation. Et je suis allé à Burbank et j'ai découvert les studios d'animation. Je n'imaginais pas que j'entrais dans l'usine qui fabrique les rêves de tous les enfants du monde. Et c'est fascinant de voir tous ces gens qui sont des artistes, des plasticiens extraordinaires et qui travaillent toute la journée, je me souviens, ils faisaient des bambous, donc il en fallait des milliers, on appelait sur les cellophane, enfin les cells en anglais pour les transparents, donc ils servent à faire toutes les montages d'animation. Et je découvre quelque chose de très optimiste, je découvre quelque chose de très souriant, je sors d'une période difficile. À l'Opéra de Paris, Nureyev ne va pas bien du tout, va partir de l'Opéra. L'ouverture de Bastille, avec tous ces changements de direction sans arrêt, on ne sait pas qui va être directeur de quoi, ça change parfois plusieurs fois par semaine. On voit arriver un directeur de Bobigny qui devient directeur, puis après c'est un autre, puis après c'est un chef d'orchestre, puis après... Donc c'est quand même du grand n'importe quoi, cette période. Et sans véritable proposition de ce que j'allais y faire. J'avais le sentiment que le rêve que nous avions fait avec Rudolf de transformer le Palais de Garnier en Palais de la Danse, et puis Bastille en Palais du Lyrique, donc d'avoir un... et qui aurait pu à ce moment-là être dirigé par nous deux. Bon, il aurait fallu que Rudolf aille bien, il aurait fallu que je puisse plaire à tous les politiques pour continuer à faire cela. Donc, voilà, ça allait se terminer. Et ce voyage aux États-Unis, qui me rappelait évidemment tous mes nombreux voyages, enfin, continuais d'aller aux États-Unis, mais c'était un peu, pour moi, l'idée d'aller un peu au bout de l'aventure américaine. Il y avait cette espèce de rêve américain. J'avais été aussi très sensible en lisant cette très jolie monographie de Eisenstein sur ce qu'il pensait de Walt Disney, en disant qu'au fond, il n'avait pas eu de plus forte émotion qu'en voyant les sept nains pleurer devant le cercueil transparent de Blanche-Neige. Il comparait ça d'ailleurs à Saint-François d'Assise qui nourrissait les oiseaux, cette espèce de comme ça, de naïveté et en même temps de simplicité extraordinaire. Et en voyant tous ces artistes travailler, je me suis dit, au fond, là, il s'agit quand même de Parc à Thème, il s'agit de Paris, il s'agit d'autre chose. Mais il y avait aussi cette proximité avec cet homme de culture qui était Robert Fitzpatrick, en me disant peut-être qu'on pourra faire quelque chose de différent. Et puis après tout, c'était aussi un job, puisque si je quittais l'Opéra de Paris, voilà, j'avais une famille à nourrir, fallait que je trouve peut-être autre chose à faire. Bon, bien sûr, j'aurais pu rester dans le secteur public de la culture avec l'expérience qui était la mienne. Mais c'était l'occasion de rejoindre aussi une grosse société privée. Il y avait cette attirance pour America, cette page blanche qui se présentait devant moi. Et presque sans hésiter, au retour de ce voyage, j'ai répondu positivement.
Évidemment, un acteur aussi engagé que vous du monde culturel public qui rejoint la Walt Disney Company, c'est très surprenant, mais on entend bien qu'il y avait aussi ce goût du défi, cette envie. Mais qu'est-ce qu'il vous a demandé très précisément? Quel était votre job, Jean-Luc Choplin?
C'était de créer les spectacles qui seraient faits dans ce parc. C'était aussi peut-être d'adapter. Je crois qu'il y avait une mauvaise conception à l'époque de la création de Disney, c'était de dire, certains, et les Américains notamment disaient, nous on fait le parc américain à Paris, et les Européens disaient, on va européaniser ce parc.
Les deux avaient tort.
Ouais, les deux ont tort. Et moi j'ai dit, bon, au fond, il faut que ça reste Disney. Donc il faut que l'on arrive à retrouver les racines de création qu'avait fait Walt Disney, et puis de voir comment on pouvait transformer tout cela. Et j'ai réussi. Par exemple, il y avait cette arène juste à l'extérieur du parc, dessinée par Frank Gehry, arène magnifique, où il fallait avoir une idée, et où j'ai proposé qu'on refasse le grand spectacle de Buffalo Bill, qui avait marqué toute l'histoire du début du XXe siècle et de la fin du XIXe, où Buffalo Bill présentait l'Ouest sauvage à toute l'Europe, que ce soit à Londres, à la Reine Victoria, en Allemagne et partout. C'est aussi relié avec l'histoire de la Provence, parce que Buffalo Bill est allé à Avignon. Voilà, on pense que d'ailleurs dans les rues et en Camargue, il y a peut-être des descendants de tous les animaux, des chiens, de Buffalo Bill.
Tous les westerns français ont été tournés en Camargue, à la grande époque des années 20.
Absolument. Et donc c'est toute cette influence. Et je voulais reproduire ce grand spectacle. Et me suis tout de suite tourné vers un metteur en scène d'opéra, encore moins connu, bien moins connu qu'aujourd'hui, mais quand même qui avait déjà fait preuve de production à succès, Robert Carsen, pour lui demander de bien vouloir entreprendre la création de ce Buffalo Bill's Wild West Show, qui était de présenter l'Ouest sauvage dans un dîner spectacle qui existe toujours aujourd'hui, qui a été, je crois, un petit peu modifié, mais qui existe toujours. J'aurais dû demander un franc à l'époque de royalty sur chaque spectacle. Je serais riche, sûrement. J'aurais pu m'acheter un site Wembley. Donc, ça aurait été absolument magnifique. Mais c'était la possibilité que j'ai eue, sans aucune contrainte, de lancer des projets comme cela. J'ai fait travailler des metteurs en scène d'opéra, des sculpteurs. Je sais pas, j'ai demandé à Rachid Kimoun de me faire un char de parade, à Petrica Ionesco.
La grande parade, hein, c'est ça?
La grande parade, à l'époque, enfin, quand on l'a créée, en tout cas maintenant c'est devenu autre chose, mais j'ai pu demander à des sculpteurs, à des créateurs, à des musiciens. Parce que je me souviens qu'on avait une boîte de nuit qui était dans cette allée, et j'avais demandé à des membres du... alors comment ça s'appelait, le groupe de recherche musicale de Marseille, le GRM, je crois, de créer toutes les ambiances musicales de cette chose. Donc j'ai fait travailler
Votre patron n'était pas inquiet, ou vos patrons n'étaient pas inquiets de toutes ces idées?
Si, je me suis fait plusieurs fois taper sur les doigts, mais par les patrons locaux. Et ce qui a beaucoup plu au patron américain, ce qui m'a valu mon appel vers les États-Unis plus tard, c'est que ça amusait beaucoup le président de la Walt Disney Company. Je me souviens, un jour, j'avais demandé à Cameron McIntosh de voir si on pouvait produire ensemble un spectacle. Ça avait créé vraiment des angoisses absolument terribles. Comment un producteur privé londonien pourrait faire un spectacle qui serait pas Disney, dans Disney, et ça, c'était Mamma Mia, qui était avant d'être bien créée, qui avait été que nous aurions créé là, si ça avait pu se faire. Ça n'a pas été possible, mais À chaque fois, voilà, je poussais le Spielblick assez loin. J'avais demandé à Maurice de pouvoir faire une grande attraction sur Lucky Luke. Donc, alors que c'était pas du tout dans la culture, mais ça m'apparaissait très intéressant. Et je me souviens de la présentation que j'ai faite de cette maquette absolument sensationnelle avec des effets spéciaux invraisemblables à Michael Eisner et Michael Ovitz qui venaient de rejoindre la société. Je crois qu'il n'avait jamais vu ça dans sa vie encore. Et donc, au fond, j'ai retrouvé quelque part la même folie. Alors évidemment, le cadre était très différent, mais dans le processus, que celui que j'avais eu un peu en Provence-Côte d'Azur. Alors évidemment, l'un était très culturel, l'autre était beaucoup plus tourné vers une expérience qui pouvait être aussi bien commerciale. Mais à partir du moment où on pouvait faire travailler les artistes, j'étais heureux. À partir du moment où je pouvais montrer que je travaillais avec des artistes, que je permettais à des artistes de faire des choses folles et de façon libre. Jamais je n'ai eu quelqu'un qui est venu me dire de changer de couleur. Je me souviens un jour, pour le premier anniversaire de Disney Paris, quand je voyais le matin, quand j'arrivais à Disneyland Paris, je voyais ce château inspiré des très riches du duc de Berry qui sortait comme ça du brouillard, assez magnifique. Et je m'étais dit, au fond, c'est un gros gâteau. Et pour l'anniversaire, premier anniversaire, on va transformer le château en gâteau. On va faire château-gâteau. Et alors tout le monde est affolé, à commencer par Fitzpatrick, à commencer par les vice-présidents américains. On ne touche pas à ça. Et je me bats avec ma conviction, qui était absolument totale et qui m'a valu ce surnom de pouvoir vendre des glaces à des Esquimaux. Donc je me souviens du président de Disney Paris qui dit, bon, on va appeler Michael Eisner, on va faire une conference call, on va appeler Michael Eisner. Donc on lui avait envoyé le dessin que j'avais fait faire de ce que pourrait devenir ce château complètement recouvert de gonflables, de cerises, de choses absolument extraordinaires. Et ben, Michael a cette phrase absolument unique qui dit « We have nothing serious enough in this company that we cannot have fun with. » Nous n'avons rien d'assez sérieux dans cette société avec lequel on ne puisse pas s'abuser. Donc, let's go, allons-y, on le fait. Et j'avoue que c'est des moments absolument extraordinaires. Vous vous lancez dans une folie et vous pouvez réaliser cette folie. C'est un peu ce que j'ai fait là-bas.
Il y avait quand même un fort contexte de défiance avant l'ouverture du parc, et même dans les premiers temps de l'ouverture du parc. On s'en souvient bien, je m'en souviens bien, pour avoir couvert l'ouverture du parc pour France Culture à l'époque. Vous l'avez vécu comment, cette ouverture du parc, Jean-Luc Choplin?
C'était tellement intense, si vous voulez, on avait travaillé depuis... Moi, j'ai été engagé en 89, l'ouverture est en 92, donc ça fait quand même 4 ans de préparation où on travaillait de 6h du matin à minuit tous les jours. Parfois, on rentrait pas tellement, on avait du travail parce qu'il y avait le chantier. Et puis, il y avait de ce qu'il fallait mettre dans le chantier. Il y avait beaucoup de risques à prendre, des risques financiers. Je veux dire, il fallait que... Je me souviens quand même avoir recruté plus de 1600 personnes autour de moi, donc et presque à chaque fois devant donner mon accord sur chaque personne. Donc d'ailleurs j'ai un ou deux collaborateurs du Châtelet qui de cette période que j'ai fait venir. Il y en a un pendant un jour qui arrive, qui est mon directeur de la scène d'aujourd'hui ici. Je l'ai reçu, je crois, à 11h, et je lui dis, bon, voilà, je regardais son CV, ça m'apparaissait correspondre. Je lui dis, vous êtes libre quand? Il me dit, ah ben, il faut que j'ai 3 mois de préavis. Je lui dis, et vous pouvez commencer à 14h. Donc, je l'avais mis comme régisseur sur le Buffalo Bill One Way Show. Donc, ça allait à une vitesse. Enfin, donc, il y avait la vitesse, il y avait des grandes tensions. Je me souviens, par exemple, pour justement le Buffalo Bill Show, à la pré-pré-générale, où le numéro 2 de la compagnie, qui est disparu depuis dans un accident d'hélicoptère, Frank Wells, était venu, et on avait invité déjà un peu les spectateurs. Il y avait un groupe de touristes allemands qui étaient là, bien attaqués par la bière, et qui, en plein milieu de l'après-midi, regardaient ce spectacle. Et j'avoue qu'ils n'ont pas ri du tout, enfin, ça ne les abusait pas, rien du tout. Et il y avait, malheureusement, Frank Wells qui était venu un peu en pré-inspection pour la chose. Alors, je vous dis pas, dans ces corporations, dans ces sociétés, c'était la panique absolument totale. C'est-à-dire que des courriers sont partis dans tous les sens, des téléphones, etc. Parce que c'était un peu le spectacle phare. C'est la première fois que Disney s'attaquait à un grand spectacle d'une heure et demie, de toute longueur, etc. Et donc, c'était la panique. J'ai été convoqué absolument partout. J'ai été en disant c'est une catastrophe. D'ailleurs, le grand boss vient lui-même donc prend l'avion et vient lui-même voir
constater les dégâts
ce spectacle, c'est constater les dégâts à quelques jours de l'ouverture. Donc en même temps vous avez ouvrir le parc, vous avez vos équipes, vous avez les recrutements, vous avez donc cette absolument le training des chevaux, des percherons dont je m'occupais pour les tramways dans Main Street. Donc il avait fallu que j'achète des percherons, que je les fasse dresser, que les animaux, il fallait que je m'occupe des pigeons. Donc il avait fallu que je recrute un gars spécialement pour que les centaines de pigeons puissent faire ces lâchers, vous savez, de pigeons blancs pour revenir, ces pigeons pans pour revenir. Donc il y avait tout ça à gérer quand même. Donc c'est assez fou. Quelque part, et vous avez le soir Michael Eisner qui vient avec 30 personnes à peu près assister à votre spectacle. Donc, alors qu'ils sont tous là en espérant qu'enfin vous allez pouvoir, vous qui dérangez tout le monde, vous qui avez fait suer en imposant tout ça. Je me souviens, j'avais essayé de convaincre le gars des hôtels que on devait avoir des chapeaux de cow-boy qui ont été assez fameux, qu'on a vu dans toutes les voitures de Paris, dans les arrières des voitures de Paris. Et qui voulait absolument pas, à qui j'avais imposé ce truc-là. Et Michael Eisner voit ça. Et à la fin, on me dit, le grand boss veut vous voir. Donc je me dis, oula, ça va être. Il me dit, là, il me dit, c'est vraiment très bien. Il me dit, c'est vraiment formidable. Il me dit, bon, si vous pouvez m'ajouter. C'était de toute façon sa formule habituelle que je connaissais par cœur. Ajoutez-moi un peu plus d'humour dans la première partie. Je lui dis, mais non, Michael, ils sont en train de manger. Donc, on leur présente l'Ouest sauvage, on fait rentrer les bisons, atmosphère absolument extraordinaire. Puis après, on fait les rodéos. Bon, mais enfin, donc, on avait divisé en deux actes le truc. Donc, il me dit, mais non, c'est très bien. Et je me souviens ce soir-là, donc je rejoins, c'était encore un peu chantier, ma voiture qui était garée pas très loin. Et je vois une série de deux, trois limousines qui s'arrêtent près de moi. La porte, la fenêtre d'une des voitures s'ouvre à l'arrière et Frank Wells me dit « Je veux vous demander pardon, je me suis trompé, c'est vous qui aviez raison, j'étais pas en forme, bravo, chapeau, le spectacle est magnifique. Enfin, » c'est des choses comme ça qu'on vivait en permanence, mais ça continue parce que le soir de l'inauguration donc, que vous avez couvert, Michael Eisner m'a pris à part et m'a dit « Vous, ça fait, je pense que je n'avais pas dormi déjà depuis au moins 3-4 jours. » Il m'a dit « Vous rentrez. » Et vous allez vous coucher. Bon. Je rentre à la maison et le téléphone sonne. Il y avait eu un accident. C'est-à-dire que la diligence, qui à un moment donné faisait le tour de l'arène avec des spectateurs à l'intérieur, s'était retournée. Donc c'était le président américain du parc, qui n'était pas Robert Fitzpatrick, mais qui s'appelait Jim Cora, qui m'appelle en me disant « Vous êtes convoqué demain matin à 8 heures. C'est vraiment pas possible. Il faut qu'on... » Vraiment, c'était... Et quelques minutes après, je reçois un coup de téléphone du secrétariat de Michael Eisner qui me dit « Michael veut vous voir avant. » Ah, je dis « Bon, je venais d'arriver. » Donc j'avais quelques heures.
Une nuit à dormir.
Voilà, donc impossible de dormir. On me dit « Bon, ça c'était... Il y avait eu des ambulances, ça allait, il n'y avait pas eu de... Il y avait eu juste quelques coups, un peu quand même. Voilà, un petit accident. » Et Michael Eisner me prend à part et me dit « Ils vont vous dire de tout arrêter. Alors, je vais vous dire, moi, vous allez tout continuer. »
Ça sécurise pour le rendez-vous qui suit.
Voilà. Non, non, mais je veux dire, c'était, c'est un peu la façon dont j'ai vécu tout ça. C'est
quand même, Michael Eisner vous a tellement apprécié qu'il vous a demandé, donc en 95, Jean-Luc Choplin, de venir le rejoindre à Los Angeles. Là encore, il vous a présenté le travail, le job comment, Michael Eisner? Qu'est-ce qu'il vous a demandé?
L'idée qui avait fait son chemin, c'était que je pouvais être utile là-bas à quelque chose. Mais c'était pas très clair, quoi. Au fond, il appréciait mes présentations, il appréciait ma façon de réagir, il appréciait le travail que je faisais avec des artistes qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir, puisque là-bas, c'est très, tout est très corporate, tandis que là, il y avait une espèce de souffle un petit peu original. Et au fond, il voulait préparer quelque chose qui lui tenait à cœur, peut-être avait-il le sens de l'histoire pour lui-même. Il voulait préparer les célébrations du millénaire, de l'an 2000, le passage à l'an 2000. Et au fond, il faut que j'aie auprès de moi quelqu'un qui pourrait inventer quelque chose. J'avais dans une réunion qu'on avait faite en préparation de l'an 2000, parce qu'il y avait où il était là, j'avais bêtement proposé qu'on fasse ça, que ça s'appelle MM, en lettres chiffres romains, puisque ça faisait 2000. Mais malheureusement, il y avait MNM, donc je ne sais quel juriste avait dit « c'est pas possible ». Mais j'avais lancé des idées quand même qui avaient apparemment plu. Et donc, je crois qu'il m'a demandé de venir à l'origine pour ça. Et puis, après, au fond, je crois que je suis devenu, en anglais, on pourrait dire, un « artistic eye in a company doing nothing artistic ». C'est-à-dire qu'il y avait cette idée d'avoir, comme ça, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose d'artistique. Et une des premières missions dont il m'a chargé, c'était de faire créer des œuvres musicales, commander à des compositeurs des œuvres. L'idée, parce que j'avais eu cette idée un peu simple, qui était de dire qu'au fond, on pouvait faire... Fantasia avait été composé avec des œuvres, des grandes œuvres de musique classique, donc pourquoi pas faire un Fantasia 2, un Fantasia 3, et donc de commencer à avoir un trésor d'œuvres musicales, et donc de commencer à passer des commandes à des compositeurs pour faire cela. Enfin, c'est un peu compliqué après, parce que Michael Eisner avait écrit lui-même une longue, un peu biographie, en tout cas une histoire de l'Amérique des 80 dernières années, et il l'avait montré à Roy Disney, il l'avait montré au directeur des studios, peut-être qu'un film aurait pu être tiré de là, et tout le monde se refilait la patate chaude en disant voilà, c'est pas bon. Et un jour la patate chaude arrive évidemment chez moi, et plutôt que de me comporter comme tout le monde et d'essayer de voir à qui je pouvais la refiler en disant il y a peut-être une division de la société qui n'a pas encore été sollicitée, je vais voir comment on peut travailler pour faire écrire un poème symphonique tiré de cela. Et j'ai réussi, j'ai réussi à faire quelque chose avec un des jeunes compositeurs américains à l'époque. Il était plus jeune qu'aujourd'hui, évidemment, il a vieilli, mais Michael Torkey, un compositeur assez répétitif et minimaliste américain, et je lui ai fait composer sur des poèmes reliés à chaque fois à cette période, et j'avais fait un rouleau avec des images de l'histoire de l'Amérique, de l'histoire d'événements qu'on pouvait retenir tirés du texte de Michael Eisner, un peu comme un dîner familial autour de Thanksgiving, et où chaque membre de la famille peut s'exprimer, raconter son histoire, le grand-père, l'arrière-grand-père, la jeune génération. J'ai fait un très très grand rouleau que Michael Eisner a fait encadrer, a mis très longtemps, il est parti maintenant, à l'entrée de son bureau.
Pour vous quand même quitter la France, la vieille Europe, pour partir, vous ne saviez pas pour combien de temps, Jean-Luc Chopin, mais c'était quand même larguer les amarres, c'était compliqué ou pas ?
J'avais pas ce sentiment d'abord, vous imaginez, un petit Français issu de la cité jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, qui se retrouve dans une des plus belles maisons de Brentwood, donc le quartier au-dessus de Santa Monica, presque le plus chic, enfin avec Bel Air, de Los Angeles, maison payée par Disney, Cadillac, limousine. De temps en temps jet privé, je dirais.
Vous étiez prêt au sacrifice, quoi, à partir.
C'était dur. On pouvait même pas regarder en arrière. Enfin, je veux dire, c'était et d'être au sein des saints de la société, de pouvoir côtoyer aussi bien Jeffrey Katzenberg, Michael Ovitz, Michael Eisner, et les échanges qui naissaient de ces rencontres, la possibilité que ça donnait de rêver, d'entreprendre, de faire quelques folies à une époque où la bulle n'avait pas encore éclaté, donc il y avait un argent qui était tout à fait considérable. Où, de temps en temps, Michael Eisner me demandait des missions personnelles. Quand il a acheté son ranch dans le Colorado, il m'a demandé d'aller choisir ses chevaux. Comme j'avais fait le Buffalo Bill Wild West Show, donc j'ai parcouru tous les États américains qui ont des chevaux pour aller choisir les meilleurs chevaux qui soient. Et quand je suis arrivé auprès de lui, il m'a dit non, mais moi je ne chevauche pas les papiers. Allez m'en trouver des beaucoup plus simples, des beaux mais beaucoup plus simples et des moins chers, donc je suis reparti, etc. Donc la vie était assez passionnante, très diverse si vous voulez, et complètement surprenante, à condition de se mettre au service d'un côté, c'est-à-dire de savoir que j'ai quand même convaincu, je suis absolument fier de cela, ça restera un des grands souvenirs de ma vie. Kurt Masur, qui est le patron du New York Philharmonic, donc vous savez, dans la grande suite de tous ces grands chefs d'orchestre du New York Philharmonic, a fait pour la première fois un programme de musique américaine et de création d'œuvres que nous avions commandées. Donc cet immense statut du commandeur, Kurt Masur à la main si extraordinaire, je l'ai convaincu à la force du poignet de faire, alors qu'il n'avait jamais fait de programme américain. Voilà la force d'être dans une société qui peut, qui aux États-Unis interpelle, enfin qui peut. C'est pas le ministère de la culture, hein, Disney aux États-Unis, mais c'est un grand ministère populaire, quoi. Voilà, pour divertissement collectif.
Et puis il y a évidemment ce que vous avez appris, ce que ça a changé en vous ces années Disney, Jean-Luc Choplin, puisqu'après il y a cette grande aventure du théâtre du Châtelet dont on va enfin parler dans le prochain épisode de ces Avoinus. Mais l'idée, c'est peut-être de dire qu'on peut rêver, faire rêver, proposer des belles choses, des grandes choses au plus grand nombre. Est-ce que c'est ça, peut-être la leçon la plus importante que vous avez retenue de Disney?
Ce qui m'a vraiment frappé chez Disney, c'est que tout est fait pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une attention à l'autre. Évidemment, on va dire c'est le client, mais cette idée d'expérience, cette idée que le spectateur peut devenir un peu plus spectateur, une certaine légèreté peut aussi bien émouvoir que quelque chose de beaucoup plus dramatique. L'idée que on peut construire cette expérience-là avec un grand E. On peut transformer le regard de l'autre. C'est-à-dire que j'étais quand même, quand on est chez Disney, on travaille beaucoup pour accueillir des enfants. Vous voyez le miracle de ce que ça provoquait dans les relations, dans les familles. Le miracle de ce que ça a créé chez les enfants qui étaient parfois en grande difficulté. Disney ne faisait jamais de publicité là-dessus. Je veux dire, très 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 discret sur tous ces enfants en phase terminale, toutes ces gens qu'on accueillait et qui avaient parfois des difficultés très sérieuses. Et j'étais très touché par tout cela. Enfin, je veux dire, je trouvais que c'était au fond une partie de ma vie que j'allais consacrer à cela. Bien sûr, je ne serais pas avec tel et tel grand génie de la création. J'ai pas pu faire travailler Bob Williams. Je lui ai jamais demandé de travailler pour Disney. Bien que je l'ai sollicité sur une des créations musicales que nous avions faites. Je voulais lui donner un côté oratorio, mise en scène. On n'a pas pu le faire finalement, mais pour des raisons de calendrier essentiellement. Mais Bob Wilson n'avait pas de problème par rapport à ça. Mais oui, enfin c'était
l'attention à l'autre.
L'attention à l'autre. Oui, ça m'a. Je me suis dit ce jour-là parce que j'avais tellement connu à un moment donné là tous ces gens autour de moi qui disaient oui c'est formidable, on a fait une grande œuvre. C'est vrai que la salle s'est vidée, mais on est les meilleurs parce que voilà on a vidé la salle. Enfin j'exagère un petit peu, mais à peine. Et notre responsabilité vis-à-vis du public. L'idée qu'on travaille dans un théâtre, et après ça a été toute ma mission au Châtelet, mais pour remplir une salle, oui, ça s'est nourri de Disney.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Luc Choplin. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, réalisation Vincent Abouchard, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.